Daniel. Alors, comment ça se passe à l'UPEC? M'a demandé le docteur Franck. Il était assis dans un fauteuil confessionnal vert foncé avec un semis de petites étoiles dorées. J'étais assise en face de lui. Non pas sur le proverbial divan, mais sur un deuxième fauteuil vert sombre étoilé. Entre nous, une table en cerisier avec un dictaphone et deux tasses en porcelaine. Thé pour lui, café pour moi. On aurait dit une scène classique dans une pièce de théâtre, l'éminent psychiatre interrogeant son éminente patiente. J'ai pris la jolie tasse avec son motif de rose et bu une gorgée avant de répondre. Le travail, c'était la question habituelle du docteur Franck pour détendre l'atmosphère. Comme je ne le voyais que deux ou trois fois par an, il fallait plus ou moins rompre la glace à chaque séance et il avait compris depuis longtemps que je préférais parler des problèmes d'autres enfants plutôt que des miens. « J'ai une nouvelle patiente », ai-je répondu en reposant le café. C'était du décaféiné, vraiment dégoûtant. Je ne savais pas pourquoi j'en acceptais encore une tasse après toutes ces années. J'aurais pourtant dû savoir. « Oui ?» m'a-t-il encouragé, le regard éternellement patient. « Elle s'appelle Lucie. C'est une enfant sauvage. Fascinante, vraiment. Elle s'apaise en s'identifiant à un chat domestique. » Elle joue avec sa nourriture, fait sa toilette, dort au soleil. Quand elle est chat, elle est relativement gérable, mais si elle sort de son personnage, elle devient agressive, violente, enragée. J'ai soulevé mes cheveux pour montrer une énorme égratignure dans mon cou et toute une série d'ecchymoses violacées. Le résultat d'un affrontement hier soir. Le docteur Franck n'a rien dit. Dans notre relation, c'est moi qui parlais. On croyait qu'elle était complètement non-verbale, ai-je continué? Mais hier soir, elle m'a parlé. Et puis je l'ai surprise plusieurs fois à écouter les conversations du personnel. Cette expression dans son regard, je pense qu'il se passe beaucoup de choses dans sa tête que nous ignorons encore. En fait, je pense qu'elle possède peut-être beaucoup plus de compétences que nous le croyons. C'est votre patiente, vous dites? Oui, enfin, j'étais beaucoup dans le service ces derniers temps et quand je suis de garde, je travaille en général avec les enfants non-verbaux, ma spécialité. Je vois. Encore une de ses réponses habituelles. J'avais parfois l'impression que j'aurais pu écrire nos dialogues à l'avance, ce qui expliquait sans doute pourquoi j'espaçais mes visites. J'aurais arrêté tout à fait sans tante Hélène. Elle semblait avoir besoin que je voie un thérapeute, alors le docteur Franck et moi lui faisions ce plaisir. Le docteur Franck ne me quittait pas des yeux. Je savais où il voulait en venir, mais je n'allais pas lui mâcher le travail. Après tout, dans notre relation, c'était lui qui posait les questions. « Quand avez-vous quitté l'hôpital ? » m'a-t-il demandé. « Je suis arrivée chez moi vers 3 h du matin. » Il a jeté un œil à sa montre. Il était 10 h. 10 h par une belle matinée de samedi. J'aurais dû flâner dans les parcs le long de la Charles River au lieu d'être là. « À quelle heure êtes-vous sortie du lit ce matin ? » ?»« Pardon ? » ?»« À quelle heure vous êtes-vous levée ?» Mon genou commençait à tressauter, je l'ai forcé à s'arrêter. « Je sais pas, pas fait attention. » Un petit déjeuner? Bien sûr. Qu'avez-vous mangé? Je sais pas, un bagel, quelle importance. Il m'a dévisagé avant de porter les stockades. À vous de me dire, Daniel, quelle importance. Mes deux genoux étaient maintenant agités de secousses, les traîtres. Très bien, me suis-je énervée. Quoi, je ne dors pas beaucoup, rien de surprenant, n'est-ce pas? Et d'accord, j'ai sauté le petit déjeuner. Et oh, maintenant que vous le dites, le dîner d'hier soir. Ce qui ne m'empêcherait pas ensuite de m'enfiler plusieurs verres coup sur coup, rien de surprenant là non plus. Je lui lançai un regard noir, le mettant au défi de me dire que je n'avais pas le droit de me détruire. Des rêves ? A-t-il demandé sans se démonter. Même connerie que d'habitude. Vous arrivez à sortir de la maison de vos parents ? Non, rien de nouveau de ce côté-là. Vous avez essayé les somnifères ? Figurez-vous qu'ils me rendent encore plus grincheuse. D'accord. Il a pris sa tasse, bu avec délicatesse une petite gorgée de thé et doucement reposé la tasse sur sa soucoupe. Combien de jours encore? Je le fusillais toujours du regard. Il connaissait la date anniversaire aussi bien que moi, ce con. Il est resté imperturbable, le regard bleu et direct, la barbe blanche bien taillée, le costume gris clair plein de dignité. Alors j'ai fini par lâcher avec hargne. 2 jours, a-t-il répété. Et jusqu'à présent, votre stratégie pour tenir le coup a consisté en trop de travail, pas assez de sommeil, trop d'alcool, pas assez de nourriture. J'y suis à peu près. N'oubliez pas le pèlerinage annuel sur les tombes avec tante Hélène, ça ne s'oublie pas. Avez-vous envie d'y aller, Daniel ? Comme je ne répondais pas, il a appuyé sur le bouton numéro 2. Avez-vous envie de vous sentir mieux ? Vous interrogez-vous sur vos propres compétences, ou bien est-il toujours plus facile de vous concentrer sur une de vos patientes, sur Lucie par exemple ? Comme je refusais de répondre, il a joué le tiercé et actionné la manette numéro 3. Parlons de votre vie amoureuse. Oh, taisez-vous. Et il l'a fait. C'était ma séance, après tout. Je menais la barque, je pouvais mentir autant que je voulais, nier autant que je voulais, dissimuler autant que je voulais. Mes deux genoux s'étaient remis à tressauter et je me demandais pourquoi j'étais venue. J'aurais dû rester chez moi. J'aurais pas dû quitter mon appartement. Parce que lundi, ça ferait exactement 25 ans. 25 ans que ma mère était morte, que mes frères et sœurs étaient morts, que mon père était mort et que je vivais pour témoigner de ce qui s'était passé. Sauf que je n'avais rien à dire. Un quart de siècle plus tard, je n'étais pas devenue plus savante comme par enchantement. Je ne savais pas pourquoi il avait fallu que ma maman, Nathalie et Johnny meurent. Je ne savais pas pourquoi il avait fallu que ma première vie s'achève et je ne savais pas pourquoi cette seconde vie m'était encore si difficile. « Vous avez vu cette affaire dans les journaux ?» me suis-je entendu demander. « La famille assassinée jeudi soir à Dorchester ?» Le docteur Frank a fait signe que oui. Hier, deux enquêteurs sont venus dans le service pour poser des questions. Un de nos patients était impliqué. Ses parents l'avaient fait sortir contre notre avis l'an dernier. Il se pourrait bien qu'on ait eu raison sur ce coup-là. Le docteur Frank avait l'habitude de mes sarcasmes. Impossible de rester assise, j'étais trop à cran. J'avais encore rêvé la nuit précédente. Mon foutu père devant cette foutue chambre, cette connerie de flingue sur la tempe, le sale lâche. Ce matin, on parlait aussi d'une autre famille, à Jamaica Plains. Mais c'est peut-être un trafic de drogue qui a dégénéré, personne n'a l'air de savoir. 4 enfants. Du nourrisson à l'adolescent. Supprimé, comme ça. Si c'était un autre dealer, pourquoi le bébé ? Un bébé ne peut pas témoigner, il ne peut balancer personne. On penserait que le tireur aurait pu l'épargner. Cela dit, me suis-je entendu divaguer ? Peut-être que le bébé ne voulait pas être épargné. Peut-être qu'il avait entendu les coups de feu et qu'il s'était mis à pleurer. Peut-être qu'il savait déjà que sa mère et ses frères et ses sœurs étaient morts. Peut-être qu'il voulait partir avec eux. Et le père du bébé ? On s'en fout. Son père ne manquait pas à ce bébé. Non, ai-je répondu. Même si sa tentative pour m'assimiler à ce bébé faisait tellement psychologie de comptoir que j'aurais dû lui rire au nez. Il n'y a pas de survivants, ai-je dit. Vous pensez qu'ils sont plus heureux comme ça ? Peut-être que le paradis existe. Peut-être que la mère et ses enfants y sont réunis. Et peut-être qu'au paradis, les enfants n'ont pas à écouter des voix dans leur tête et que les parents n'ont pas à hurler pour se faire entendre. Peut-être qu'au paradis, ils peuvent enfin profiter les uns des autres. Je trouve que c'est pas juste de la part de mon père de m'avoir refusé ça. Vous voulez rejoindre votre famille ? M'a demandé posément le docteur Frank. J'étais incapable de le regarder. Non, je ne veux pas. Et c'est encore plus merdique parce que j'en veux à mon père d'avoir tué toute ma famille et ensuite il faut que je prenne le contre-pied et que je lui sois reconnaissante de m'avoir épargnée. Vous n'avez pas à être reconnaissante. Mais si. Vous avez le droit de vivre, Daniel. Vous avez le droit d'être heureuse, de tomber amoureuse, de jouir de la vie. Ce n'est pas votre père qui vous a donné ça, et vous ne lui devez rien. Mais si, il l'a fait. Peut-être que c'est votre mère, a suggéré le docteur Frank. Ma mère ? Ai-je protesté ? Qu'est-ce qu'elle a à voir là-dedans ? Ou peut-être votre frère ? Je le regardais sans comprendre. Ou peut-être votre sœur, Nathalie ? Ou le shérif Wayne ? Ou votre tante Hélène ? Mais de quoi vous parlez ? Je dis simplement qu'il y a beaucoup de gens qui ont compté dans votre vie, et pourtant vous donnez tout pouvoir à votre père. Pourquoi faites-vous cela, à votre avis ? Il a pris la vie, il a laissé la vie. Il s'est comporté comme Dieu, alors j'imagine que j'en fais un Dieu. Dieu ne boit pas de bouteille de whisky, Daniel. Du moins, je l'espère. Je n'avais rien à ajouter, alors nous sommes restés un moment sans rien dire. Le docteur Frank a encore bu du thé. Je faisais les 100 pas devant sa fenêtre du 2e étage qui surplombait Beacon Street. Il y avait de l'animation dehors. Les rues grouillaient de touristes heureux et affairés. Peut-être qu'ils allaient flâner dans les jardins, s'offrir une promenade en bateau-cygne ou un tour en véhicule amphibie. Il y avait tant de choses à faire par une belle matinée du mois d'août. Ces familles me paraissaient toujours gaies. Je me demandais si 25 ans plus tôt, les voisins avaient pensé la même chose de nous. Croyez-vous que si vous êtes joyeuse, votre père aura gagné, que vous aurez une dette envers lui? Je ne sais pas, ai-je répondu, ce qui naturellement voulait dire que je savais. Vous voulez savoir pourquoi votre père ne vous a pas tué, a constaté le docteur Frank. 25 ans plus tard, on en revient toujours là. Pourquoi votre père ne vous a-t-il pas supprimé, vous aussi? Oui. Je me suis retournée, moins assurée, et j'ai regardé le docteur Frank. Ça ne lui ressemblait pas d'aller si directement au cœur de ma vie compliquée et merdique. Je ne savais pas trop comment interpréter ça. Peut-être que votre mère l'a appelé, a suggéré le docteur Frank. Peut-être qu'elle a dit son nom et que ça a détourné son attention. Peut-être qu'elle l'a supplié de vous épargner. Impossible, elle est morte sur le coup, une balle dans la tête. Votre sœur, alors, elle était plus près. Peut-être qu'elle l'a dissuadée. Il lui a tiré en plein visage sur le seuil de sa chambre. Je pense pas qu'elle ait pu dire grand-chose après ça. Votre frère a survécu assez longtemps pour qu'on l'emmène à l'hôpital. Oui, Johnny a survécu une bonne vingtaine de minutes. Il a aussi voulu jouer les Superman et descendre les escaliers en vol plané. Colonne vertébrale brisée par une balle, cou fracturé par la chute. La seule chose qu'il a dû implorer, c'est une deuxième balle, et que mon père ne rate pas son coup cette fois-ci. Je vois que vous avez encore relu les rapports de police. J'en conservais une copie plastifiée dans un album. Le docteur Frank et tante Hélène avaient découvert ça depuis des années. Est-ce que votre famille vous aimait? A insisté le docteur Frank. Il ne lâchait pas le morceau aujourd'hui. Le témoin en terrain connu avec ce docteur-là. Et je me suis donc remise à marcher de long en large. Je ne sais pas. Vous ne savez pas ou vous ne voulez pas savoir? Je ne sais pas. Les aimiez-vous? Ma mère et mes frères et sœurs, ai-je immédiatement répondu. Vraiment? Il a penché la tête sur le côté. La pose du psy par excellence. Daniel, vous avez consacré énormément de temps et d'énergie à penser à leur mort. Si vous les aimez réellement, pourquoi ne pas investir un peu de temps et d'énergie à penser à leur vie? C'est de ça qu'ils aimeraient que vous vous souveniez, vous ne croyez pas? Mais je l'aimais lui aussi, me suis-je entendu murmurer. Je sais. J'ai tellement essayé de lui faire plaisir. Je sais. Je me disais ce soir-là que si je faisais ce qu'il voulait, si je lui faisais juste plaisir, tout irait bien. Que voulait-il que vous fassiez, Daniel? Vous êtes une adulte à présent, une infirmière compétente. Vous ne pensez pas que vous pourriez enfin le dire à voix haute? Mais je ne pouvais pas. Je ne voulais pas. Il y a des choses sur lesquelles aucun enfant ne peut mettre des mots. Ils n'ont pas le vocabulaire pour dire ce qu'ils ont vécu. 10 cents si tu touches le pénis de papa. 25 si tu le suces. Que pourrait dire une petite fille d'une chose pareille? Je travaillais maintenant auprès d'enfants de 2 ou 3 ans qui se gavaient de nourriture et la régurgitaient dans une tentative désespérée pour s'exprimer. Ils ne connaissaient pas le terme de fellation. Ils ne pouvaient que représenter ce terrible viol en se remplissant les joues de compote de pommes et en la recrachant pendant que leur mère les grondait de faire autant de cochonneries. Ces enfants étaient sincères dans leur désir de communiquer. C'étaient les adultes qui gâchaient tout. Elle ne m'a pas sauvée, ai-je dit d'une voix blanche. Elle ne s'est même pas sauvée elle-même. Qui ça, Daniel? Ma mère. Elle m'a dit d'aller dans ma chambre, que tout irait bien, qu'elle allait s'occuper de tout. De quoi allait-elle s'occuper, Daniel? Ils ont commencé à se disputer. Je les entendais crier depuis ma chambre. Il était saoul, ça se sentait. Il était toujours saoul. Et ensuite? Je ne veux pas aller au cimetière cette année, je ne vois pas l'intérêt. Que s'est-il passé ce soir-là, Daniel? Vous êtes allé dans votre chambre? Que s'est-il passé ensuite? Dites-moi ce qui s'est passé ensuite. Il les a tués, ai-je rétorqué. J'ai essayé de lui faire plaisir, mais il les a tués. Et ensuite, il m'a chanté une chanson pour que je sache que tout était de ma faute. Vous n'avez pas tué votre famille, Daniel. Une petite fille de 9 ans ne peut pas empêcher un adulte d'agir. Vous devez certainement le comprendre à ce stade de votre vie. Je me suis contentée de hocher la tête, parce que même après toutes ces années, je ne me sentais pas de lui dire qu'au début de cette ultime soirée, c'était moi qui avais le pistolet de mon père. Le docteur Frank a continué à me poser des questions. Je m'en suis tenue à des réponses classiques et nous avons continué notre tango. L'idée m'a traversé l'esprit que, de fait, lui et moi allions bientôt fêter nos noces d'argent. Je me suis demandé si je devais lui offrir quelque chose, une plaque ou peut-être un beau cadre photo. Le docteur Frank était une des personnes avec lesquelles j'avais entretenu la plus longue relation. Je ne savais pas très bien ce qu'il fallait en penser. À la fin de l'heure, il m'a de nouveau surprise en revenant aux questions directes du début de la séance. Avez-vous le sentiment de réussir votre vie? Pardon? Avez-vous le sentiment de réussir votre vie? Voyons, Daniel, vous êtes une adulte, vous avez fait des études et vous menez une carrière admirable. Avez-vous le sentiment de réussir votre vie? Cela demande des réflexions. Je crois que j'ai joué un rôle positif dans la vie de beaucoup d'enfants, ai-je fini par répondre. J'en suis heureuse. Et ces séances, notre relation, est-ce qu'elles ont joué un rôle positif dans votre vie? Je ne sais pas si je m'en serais sortie autrement, ai-je répondu, ce qui était sans doute vrai, pas loin de la vérité en tout cas. Il a hoché la tête, apparemment satisfait. Il a remué quelques papiers. Il faut que vous sachiez que je vais prendre ma retraite à la fin de l'année. Ah bon? Il a souri, montré ses cheveux argentés. Je me suis longtemps consacrée à mon métier. Il est temps que je me consacre à mes passions, d'après ma femme. J'ai essayé d'imaginer une Madame Franck qui lui ordonnerait de raccrocher, et j'ai souri à mon tour. Félicitations, alors. Vous n'hésiterez pas à m'appeler au besoin, a-t-il dit d'un air grave. Merci. Nous savions tous les deux que je n'en ferais rien. Cette relation attendait son terme. La retraite du docteur Frank nous fournirait à tous deux une sortie élégante. Daniel, m'a-t-il dit alors que je me levais, je m'inquiète pour vous. Cet aveu m'a étonnée, et l'espace d'un instant, j'ai vu qu'il n'en revenait pas. Il s'est repris sans tarder. Je crois que nous serons d'accord sur le fait que vous n'avez pas encore correctement formulé certains aspects de votre histoire. Je n'ai rien répondu. J'ai un confrère que je vous recommanderais volontiers, une femme. Vous seriez peut-être plus à l'aise avec une femme. Non, merci. Les tout prochains jours vont être difficiles. Je m'en sortirai. Je m'en sors toujours. Avez-vous envisagé de vous installer chez votre tante? Elle a son propre deuil à faire. Vous vous réconforterez mutuellement. Pas en cette période de l'année. Il a soupiré, rendu les armes. Je vous en prie, faites attention à l'alcool. Entendu. Le lendemain après-midi, je ferai attention en levant le coude. Je ferai attention en sifflant mon verre. Et Daniel, je suis sûre que vous avez déjà dû y penser, mais ce n'est peut-être pas une bonne idée de regarder les informations cette semaine. Ces autres drames familiaux ne feront que compliquer une période déjà difficile pour vous. L'affaire de Dorchester en particulier, qui implique un enfant que vous avez connu, retourne inutilement le couteau dans la plaie. Leur drame n'est pas le vôtre. Cette affaire n'a rien à voir avec vous. J'ai pris congé sans me donner la peine de le détromper. Pour chaque mot prononcé, tant d'autres restaient inexprimés. L'histoire de ma vie.